Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Oui, c'est au fond.
Georges Quilineau.
Et oui, Paris Saint-Germain a conservé son étoile. Elles sont deux désormais sur le maillot du club de la capitale. Paris Saint-Germain qui va donc chercher ce deuxième titre après sa victoire face à Arsenal hier. Vous l'avez vécu sur RMC, on va largement encore en parler jusqu'à midi. On en a parlé lors de la première heure. Vous pouvez déjà retrouver en podcast, évidemment. Dans un instant, on va parler NBA avec les grandes gueules du sport. On est avec Pascal Duprat, Cédric Hémans, Christophe Cessieux et Fred Weiss. Et oui, on va parler NBA, Fred, évidemment, parce que Wemby s'est qualifié en... Mais tu te rends compte, Wemby s'est qualifié en finale NBA.
Je me rends compte.
Mais ouais, mais là on s'en rendait pas compte du tout en début de saison. On l'avait pas du tout imaginé. Hein. Ça c'était pas du tout dans les prêves, dans les prévisions de l'année. Ils ont renversé le champion en titre Oklahoma City cette nuit. On sera sur place avec Félix Gabory qui était dans la salle en fin d'émission. Participez au jeu du sport avec vos GG ce week-end. Remportez votre enceinte portable Tamo de Lexon, mini enceinte Bluetooth connectable à l'infini.
À l'infini.
À l'infini.
Ouais. Jusqu'à 1 million, voire
2 millions, si tu veux. Ouais.
Incroyable.
Il y a un mec sur Mars là, il veut connecter à son enceinte Lexon, il peut.
Ouais, mais il est peut-être trop loin là, non ?
Ben non, justement. Non, parce que c'est
un truc de fou.
Pour remporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216 sport au 73216. Tu peux te connecter là si tu veux. Il y en a certainement une, il y en a certainement une qui a 1000 km et que tu vas pouvoir capter. Mais d'abord donc Pierre Thévenet, t'es à la boutique du PSG devant le Parc des Princes. Oh, salut Pierre.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Parc des Princes où les joueurs vont venir en fin de journée, en début de soirée même, pour fêter effectivement le titre après de passer à l'Elysée, après d'aller sur le Champ de Mars. Pierre, il paraît que le maillot 2 étoiles s'arrache déjà à la boutique.
Mais il n'est pas arrivé surtout. C'est le problème, c'est que les supporters sont là depuis très longtemps, certains depuis minuit. La boutique devait ouvrir à 9h et en fait les maillots ne sont pas encore arrivés à la boutique.
Ah,
donc tout le monde patiente. C'est le cas de Ludo notamment qui est à côté de moi, qui est arrivé à 4h. Ça commence à faire un petit peu long, Ludo.
Ouais, ça commence à piquer un petit peu là. On prend le soleil. J'ai pas pris de crème solaire en plus, donc un peu compliqué d'attendre.
Il vient de Montpellier, Ludo. Il est supporter du PSG depuis 25 ans. C'est quoi la deadline? À quelle heure est l'avion ce soir pour repartir à Montpellier?
Je prends l'avion à Orly à 21h. Donc on va dire 18h, 18h30, histoire d'avoir le temps d'aller à Orly.
Et sinon, il y a une autre solution, c'est la maman de Ludo qui est avec lui aussi. Vous, madame, jusqu'à quand vous êtes prêt à attendre pour le maillot?
Jusqu'à demain matin, hein, s'il faut. Hein. Ah bah oui, je suis pas venu pour rien. Hein.
Il y a des supporters qui m'ont dit qu'ils avaient dormi ici une fois, qu'ils étaient prêts à redormir une deuxième fois s'il fallait pour récupérer ce maillot back-to-back. Ludo, est-ce qu'elle est plus belle que l'année dernière, cette victoire? Est-ce que c'est encore plus important de l'avoir?
Ah, carrément, parce que l'année dernière, en fait, à 3-0, bon, on savait que le match était quasiment terminé. Là, hier soir, il y avait du suspense, c'était incroyable. Donc, et puis faire le back-to-back, sincèrement, il y a peu d'équipes qui l'ont fait dans l'histoire. Donc oui, pour toutes ces raisons-là, c'était bien plus beau que la dernière.
Et certains supporters, Georges, l'ont déjà vu ce maillot, puisque Aya Nakamura l'a porté sur la scène du Stade de France pour son concert hier soir.
Mais oui, mais quoi, il y a du monde là? Il y a combien de personnes devant la boutique?
Il y a 1000 personnes.
1000 personnes,
ah, mais c'est énorme.
1000 personnes.
Il y a une queue qui va.
Et là, tu viens de leur annoncer que le maillot est toujours pas là. En
fait, ah non, mais ils le savent. Ah oui, ils le savent. Il y a un vendeur qui est sorti tout à l'heure et qui a expliqué à tout le monde que le maillot n'était pas encore arrivé.
C'est pas le moment de faire une blague, quoi, et de dire j'ai un maillot 2 étoiles.
C'est pas le même pour le Stade français, hein, Pierrot, quand même.
Non, ça va, Christophe. Non, mais figure-toi qu'il y a un monsieur qui a voulu faire une blague, justement, qui est rentré, parce qu'on peut rentrer dans la boutique, mais pour acheter d'autres choses. Ouais. Il est ressorti avec un autre maillot dans un sac, en courant à côté d'eux, en célébrant, pour faire semblant qu'il avait récupéré le maillot.
C'est super
back to back. Donc, voilà, c'est hilarant. Et ça a fait rire, tout le monde.
Est-ce que c'était pas un grand mec de plus de 2 mètres qui a joué au basket?
Il est bizarre. Il est tout petit.
Il est beau.
Il est fou, ton maillot 2 étoiles, Fred Weiss. Merci, Pierre. Allez, on se retrouve tout au long de la journée, évidemment. Tiens, sur le ring, les amis, à quand la statue de Luis Enrique, justement devant ce Parc des Princes?
RMC, le ring des GG.
Cette envie de vouloir gagner plus, de s'arrêter jamais, je pense que Luis Enrique, il est vraiment le coupable de ça.
Tout ce qu'il a accompli, en particulier avec ce club et cette équipe du PSG, on voit clairement sa patte partout. L'identité, la mentalité, la façon dont les joueurs se comportent, leur style de jeu. Oui, ça a été une source d'inspiration.
Je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière. Il m'a beaucoup fait progresser, avec et sans ballon aussi. Des choses tactiques qui me donnent à chaque fois.
C'est lui qui est l'architecte de tout ça avec son staff. Et en l'espace, on va dire, de 2 ans, il a su retourner la table et surtout convaincre même les plus indécis, donc, dont je faisais partie au départ. Oui, pour moi, Luis Enrique a réussi là où beaucoup ont échoué et pourtant ils avaient les mêmes finances.
C'est le plaisir qu'on prend sur le terrain et même pour nous les attaquants, le plaisir qu'on prend à défendre.
L'année dernière, on avait marqué l'histoire clairement, mais il y aura des moments pour parler de les back-to-back-to-back.
Ah, il y aura un moment pour parler du back-to-back-to-back. Effectivement, ce sera 11h tout à l'heure. Louis, tu peux nous écouter pour eh bien déterminer ça. Vous avez entendu les joueurs parisiens, Manu Petit, parler de Luis Enrique, le coach espagnol arrivé en 2023, qui est donc allé chercher cette deuxième Ligue des Champions comme entraîneur du PSG, son troisième comme coach dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Il égale le nombre de titres remportés sur un banc par Guardiola, Zidane et Bob Paisley, le mythique entraîneur de Liverpool. Seul Ancelotti avec ses 5 Ligues des Champions est devant. Les GG, je vous pose cette question. Sur le ring, est-ce que Luis Enrique est déjà l'entraîneur de la décennie? Alors j'ai eu 3 oui francs, je crois. Oui. Pascal, Fred et Cédric.
Moi aussi je suis franc finalement.
Non. Et j'ai eu un homme un peu moins
franc. Non, mais parce que j'aime pas cette culture de l'instant ou au lendemain de... Bon, ok, je parle avant tout à l'heure. Chaque fois qu'il fait des signes, non, je me tais.
Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites oui à 76%.
Il va quitter le plateau. Chaque fois que je prends la parole, il me dit ok.
Tu fais peur à tout le monde.
La susceptibilité est dingue. Hein. Vas-y, je te laisse continuer.
Non, mais c'est bon, j'ai fini.
Hey, Menaille. Non, vas-y, on t'écoute.
T'es boudeur.
Ce genre de débat au lendemain d'une victoire, évidemment, tout le monde est dans l'euphorie. C'est le plus grand entraîneur de l'histoire de la Terre. C'est fantastique ce qu'il a fait. Il a amené 2 étoiles. Alors. Évidemment que la trace que va laisser Luis Enrique à Paris, et encore elle est loin d'être terminée, sera immense. Arriver à remporter deux Ligues des Champions, arriver à transformer ce club, à transformer cette équipe, arriver à gagner avec des jeunes joueurs qu'il a presque formaté, exit toutes les stars, c'est magnifique. Mais après, est-ce qu'il est l'entraîneur de la décennie? C'est oublié peut-être. Un Guardiola, ce qu'il a amené au football.
Ah non, mais attention, on parle de la décennie, là, la décennie.
De 2020 à 2029.
Donc, c'est Guardiola.
J'avais posé la question juste avant, voilà. Christophe.
Oui, Guardiola, le Barça, c'était avant. Hein, donc,
mais en fait, à ce moment-là, si on veut être cartésien, ça veut dire qu'à l'instant T, il est à égalité avec Ancelotti. Puisqu'Ancelotti, on a gagné 2
en 2022-2024.
Mais cela dit, moi, ce qui me fait répondre oui, c'est parce que je me projette vers d'autres victoires de Luis Enrique en Champions League avec le Paris Saint-Germain.
Oui, il est sans doute.
Difficile à se projeter, mais malgré tout, je me projette et je me dis qu'il reste plus que 3 ans dans cette décennie. Il reste 2027, 2028, 2029, parce qu'après 2030, par définition, c'est plus la même décennie. Donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un gagne 3 titres de suite, parce qu'il faut quand même concurrencer quelqu'un qui vient d'en gagner 2 de suite dans une équipe qui n'avait fait qu'une finale avant, pour pouvoir dire qu'il puisse être meilleur. Donc à partir de là, il a créé quelque chose qui n'existait pas. Ce sentiment de victoire, la capacité depuis le Real 2016 à faire un doublé avec une équipe, et il propose du beau jeu. Bah, je suis désolé, ça va être difficile.
Moi, je dis oui parce qu'il a mis le PSG qui gagnait pas à sa main. C'est-à-dire qu'il a pris les clés, on lui a donné, on lui a laissé, et c'est là où il a réussi à transformer un club. Et pour moi, c'est le
pire
c'est
que
le
plus, ça, Cédric.
C'est pur.
Ouais. Il a réussi à faire jouer en équipe.
Oui.
Le Paris Saint-Germain en équipe. Ça. Et ça, c'est incroyable. Moi, je ne regardais jamais la fin d'un match du Paris Saint-Germain quand c'était les stars. Pourtant, je dois reconnaître que ces stars confirmaient leur statut.
Pas le foot,
mais ils gagnaient jamais en Europe. Au bout d'un moment, ils n'existaient pas parce qu'ils défendaient à 7. Okay. Luis Enrique, en 2 ans, il transforme fondamentalement l'esprit du club, le projet sportif du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est fort.
Et c'est ce qui est bien, c'est que le PSG a fait confiance à un homme et lui a donné les clés en lui disant « Ok, pour une fois, on s'est trompé avant ». Et là, on te donne les clés. Et c'est là où il est le plus grand parce que il a pris les clés, il a accepté les contraintes, les difficultés de ce club-là et gagné et il y arrive. et il arrive et c'est pas et je pense
mais c'est
que
le contexte. C'est je suis d'accord avec toi. Moi c'est le contexte qui m'impressionne le plus parce que effectivement, tu vas au Real normalement, j'ai bien normalement, c'est plus simple de gagner. Et là il a créé la culture de la gagne dans un club qui ne l'avait pas du tout. Il a réussi à imposer des choses et c'est là quand même que du côté du PSG ils ont été bons aussi. Ils lui ont donné carte blanche.
C'était la seule solution qu'ils avaient. Ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont dit, je suis
complètement d'accord. Voilà. Il faut l'assumer d'avoir les cartes blanches dans un club qui n'a jamais gagné, qui avait fait une finale juste avant.
Tiens justement, Raph sur WhatsApp me dit c'est effectivement pas une culture de l'instant, Christophe, parce que Enrique est là depuis 2023 et 3 ans plus tard de Ligue des Champions. Qui a fait ça? Qui a changé une équipe à ce point? C'était inespéré il y a 3 ans quand il est arrivé. C'est vrai que alors sur la décennie écoulée, il y a eu Jürgen Klopp évidemment avec son Liverpool rock'n'roll. Il y a Guardiola qui a enfin gagné la Ligue des Champions avec Manchester City et qui a effectivement posé son empreinte sur la Première Ligue. Aussi Thomas Tuchel qui l'a gagné avec Chelsea, qui a fait une finale avec le PSG. Mais en fait, justement, je pense que sur l'impact qu'a eu même Luis Enrique sur le jeu, non mais même sur le jeu football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que même d'autres coachs maintenant s'inspirent d'Enrique comme il y a quelques années. On s'inspirait de Guardiola. Regardez le Bayern aujourd'hui. Le Bayern, par exemple, s'inspire de ce PSG, de faire attention au football. Arsenal.
Pascal a raison. Il a réussi à faire jouer 11 mecs ensemble, attaque, défense. Ce que la plupart des clubs n'arrivent pas à faire.
Et aussi, quand tu vois Dembélé qui est Ballon d'Or, qui est souvent remplacé, chaque fois qu'il sort, jamais une fois il fait la gueule.
Il a géré les épaules.
Il va à 1000 à l'heure pour aller rejoindre le banc de touche pour se faire remplacer. C'est quand même symptomatique d'un état d'esprit général.
Surtout, il a perdu son pseudo meilleur joueur quand même. Donc ça veut dire que malgré ça, il a réussi à construire autre chose, une identité complètement qui appartient au PSG maintenant. C'est son bébé. En fait, il a fait de
son club son bébé. Il a fait comprendre que l'identité du club, le côté institutionnel est plus important que les joueurs. Ça, c'est ça qui est fort de la part de Luis Enrique. L'institution plus fort que le joueur.
Mais l'institution était meilleure aussi parce qu'ils l'ont soutenu sur ça. Parce que avant, il y avait d'autres coachs qui avaient peut-être cette capacité.
Le cas Mbappé, mais ils ont pas écouté. C'est là où il est aligné.
Le cas Mbappé, moi, je trouve que c'est incroyable et ça marque à quel point il est puissant.
Il y a dans la série qui suivait Luis Enrique sur sa saison, sa première saison au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous de cette séquence qui a fait le tour du monde où il est avec Kylian Mbappé. Il lui dit tu dois défendre. Ouais. Michael Jordan défendait. Si tu veux être le plus grand, tu dois faire ça. Regarde ce que tu as fait contre le Barça, c'est catastrophique. Non, mais parce qu'en fait, dans la construction d'un entraîneur de la décennie et de ce qu'il peut être, il y a aussi les images marquantes qui restent. Et Luis Enrique, il a ça, Christophe. Luis Enrique,
vous m'avez convaincu, hein, ça y est, c'est bon. Hein, je vais retourner ma veste. Je suis d'accord avec vous, mais ce mec a réussi des choses étonnantes avec ce club. Mais c'est difficile d'établir un hit parade des entraîneurs. Chacun a apporté, je veux dire, Guardiola, il a quand même révolutionné le jeu de Manchester City, et aujourd'hui les équipes anglaises se sont adaptées à ce qu'il a créé avec ses équipes.
Ancelotti
avec le Real, chaque fois qu'il arrive, il gagne. Bon, il a quitté le...
Oui, il est au Brésil. Real, non, mais c'est vrai que sur la durée, Ancelotti, c'est incroyable.
Il devient champion
c'est le patron de la Ligue des Champions.
Ce qui est incroyable, en tout cas, c'est Ancelotti, mis à part, cette génération d'entraîneurs espagnols. Il y a une hype autour de des entraîneurs espagnols, Pascal, qui est complètement dingue. Arteta,
Xabi Alonso, mais c'est leur modèle de formation quand on prend.
Pourquoi ils sont tous si forts?
Mais pour avoir regardé un peu, Pascal, tu as le droit de me couper si je dis des conneries. Hein.
Coupe-le, Pascal.
Un entraîneur chez les jeunes, il suit un an, 2 ans, 3 ans, après il revient, il se reforme pour être toujours au goût des nouvelles générations, les meilleurs montrent en réserve, il les forme et après, c'est possible, mais l'identité elle reste toujours là. Et cette formation qu'il y a du football espagnol, il forme des joueurs, mais surtout il forme des entraîneurs. Il les aide à devenir performants en leur donnant des outils. Il y a des coachs, deux coachs. Je ne suis pas sûr que dans d'autres sports, ça soit aussi poussé que ce que fait le football espagnol.
Au basket
aujourd'hui,
espagnol,
on parle de Pierre Sage à Liverpool peut-être.
Non, mais en basket français, juste pour faire la comparaison, en basket espagnol, pardon, pour faire la comparaison, effectivement, il les forme, mais parce qu'ils leur apprennent tellement d'avoir un QI basket tellement exceptionnel que tu peux passer assez facilement du côté de l'entraîneur parce que tu as tout en main, tu es accompagné, effectivement, et je trouve que sur ça, ils sont plutôt en avance. espagnol.
Non, mais Luis Enrique, il y a quelque chose aussi dans, dans, même dans le management, voilà, vous le disiez, mais ce, l'empreinte qu'il va laisser pour la suite. Je ne sais pas, on a parlé de l'influence de Cruyff, de Sacchi, de Guardiola. Est-ce qu'on ne parlera pas dans quelques années de l'influence qu'a eu Luis Enrique, je ne sais pas, le Luis Enriquisme, pour eh bien reparler de cette
déjà,
séquence.
Non, mais, on ne parle pas déjà de
Mourinho, si, si, parce que en fait, c'est cette capacité aussi à ne pas être un dogmatique à mort. C'est-à-dire qu'il a des joueurs qui peuvent jouer partout. C'est l'expression finale du football total, en fait. Mmh. Parce que, regarde, ils ont gagné de toutes les façons différentes. C'est en dominant, contre le Bayern au match retour, ils sont dominés, ils arrivent à gagner en contre-attaque. Et hier, ils gagnent encore d'une façon différente.
Bah, hier, c'est plutôt c'est du jeu incroyable. De position contre un mur, c'est pas évident. Pour aller trouver un pénalty, une des rares occasions où la défense a été déstabilisée, c'est de la patience, c'est du travail. Des semaines et des semaines.
Moi, j'ai l'impression, Pascal, que tactiquement, c'est très fort, évidemment, mais à ce niveau-là, les coachs sont logiquement très forts. Mais je trouve que humainement, ce qu'il apporte à ce groupe, ce qu'il apporte comme fraîcheur, que la gestion des égos, t'en parlais tout à l'heure, je trouve que c'est incroyable, la gestion des égos.
Il a réussi à mettre en fait. L'institution au milieu, le joueur au service de l'équipe et non l'équipe
qui va se garder.
Mais c'est les équipes qui gagnent.
Et aussi la formation du Paris Saint-Germain, qui, pendant des années, était négligée alors qu'il y avait des talents. Lui, il les amène continuellement, il les insère au groupe, ça c'est extrêmement important. Et puis comme tu le dis, l'amour qu'il donne à ses joueurs, en fait, il se met à poil devant ses joueurs. Il est avec eux en train de savourer devant le mur des Parisiens et des supporters. Tu sens que c'est pas fin, c'est ce qu'il a au plus profond de son cœur. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent.
Tu sens qu'il a réussi à rendre ce club populaire, humain, au-delà de Paris et de la région parisienne. Aujourd'hui, une grande partie de la France est supportrice du Paris Saint-Germain. C'est pas gagné. C'est quand même Paris. En France, il y avait toujours cette opposition entre Paris et la province. Aujourd'hui, tu vois des maillots du Paris Saint-Germain un peu partout dans le pays. Même à Marseille, chez les jeunes, il y en a certains qui commencent à porter le maillot du PSG. Ça rend fou les supporters de l'OM, mais ça arrive. Et ça, c'est grâce à ce mec-là, parce que il a fait de cette équipe, il a façonné cette équipe. Il a pris des joueurs qui n'étaient pas des méga stars, qui n'étaient pas payés comme des milliardaires. Et il en a fait. Voilà, aujourd'hui, cette équipe.
Ils sont quand même bien payés.
Non, mais cela dit, bien sûr. Mais l'aspect financier.
Oui, bien sûr. Mbappé.
Les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain, même s'ils sont peut-être un peu en dessous de ce qu'ils étaient, pour les stars, ils sont conséquents. Mais on n'en parle pas. Parce qu'ils vont au bout des choses sur le terrain.
Regardez Donnarumma qui n'a pas été conservé parce qu'il y avait aussi cette histoire de vouloir être valorisé encore un peu plus. Mais. Effectivement, et d'ailleurs, je vous invite à faire un truc fascinant. C'est remettez-vous la première conférence de presse de Luis Enrique à son arrivée au Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il a dit est arrivé sur ce qu'il allait proposer aux supporters, sur ce qu'il allait proposer comme identité.
Dieu sait si je le trouvais insupportable à ses débuts avec le Paris Saint-Germain.
Beaucoup.
Tiens, Claude au 32-16 est avec nous. Salut Claude.
Salut, bonjour les grands
gars. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu en penses de Luis Enrique, l'entraîneur de la décennie? On se posait la question.
Oui, je pense que Thierry Henry a une statue à Highbury. Je pense que Luis Enrique en mérite une au Parc des Princes. C'est pas juste un coach, c'est vraiment un leader, c'est un meneur d'hommes. Et je pense que c'est quelqu'un qui, sur les 10, 20, 30 dernières années, fait partie du top 1 des coachs et des entraîneurs.
Ouais.
Parce que ce mec, il a une vision et il avait dit, si je vous explique, vous ne comprendrez pas. Et aujourd'hui, deux ans après, on comprend que ce mec, il avait un objectif, il savait où il voulait aller.
On comprend
qu'il savait où il voulait aller. Et aujourd'hui, on voit qu'il avait raison, qu'il savait ce qu'il voulait faire. Et c'est quelqu'un qui a compris le football, le changement du football avant tout le monde. Aujourd'hui, pour gagner, il faut 11 joueurs qui courent, qui jouent les uns pour les autres. Et qui sont interchangeables. Warren Zaïre-Emery qui peut jouer au milieu, qui peut jouer en latéral. Nuno Mendes qui peut jouer latéral gauche comme ailier. Dembélé qui peut jouer sur le côté comme dans l'axe. Et capable d'accepter ce que le coach propose. Aujourd'hui, au PSG, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, par exemple. Mais quand on regarde les temps de jeu, il y a quasiment un équilibre.
Ah ben là, surtout cette saison, ils ont bien géré avec la Ligue 1.
Pour faire un parallèle avec ce que j'ai connu avec Guy Noves, et les déclarations des joueurs me font plaisir dans ce sens-là, c'est-à-dire que les joueurs reconnaissent qu'ils ont appris footballistiquement parlant avec Luis Enrique, mais il leur a appris à devenir des sportifs de haut niveau, des hommes, des gens qui travaillent, qui se mettent au service. Et ça, c'est la patte d'un entraîneur. Il y a un joueur qui a fait une déclaration en disant « Il est rentré dans ma tête ». C'est exactement ça.
Non, mais c'est exactement ça, effectivement. Je remercie Claude au 32-16. Je voulais lire un message de Rémi sur WhatsApp au 06-12-84-84. Pour moi, il y a un événement fondateur avec Enrique dont on ne parle pas assez. C'est quand il a décidé l'année dernière de laisser Dembélé à Paris sur un match important à Arsenal en phase de groupe, bien sûr. Vrai, souvenez-vous, parce qu'il est arrivé, il est arrivé en retard. À ce moment-là, il a rappelé que l'institution était plus importante que les stars, quitte à perdre un match important en se passant d'un de ses meilleurs joueurs.
Suivi par le club. C'est ça qui est important. Oui, suivi par le club.
Le club a fait le taf aussi.
L'entraîneur Luis Enrique est-il le coach de la décennie déjà? Vous dites oui à 76% sur le compte X des grandes gueules du sport et vous comptez parmi vous les gens du oui. Christophe Cessieux qui a été convaincu par les grandes gueules du sport.
Complètement convaincu.
Ah, bien sûr. Ouais, ça marche à ça parfois, hein, les grandes gueules du sport. On essaie de vous convaincre.
Quel girouette, pas de Christophe Cessieux.
Dans un instant,
tourneur de veste.
On va voir si Fred Weiss va réussir à te convaincre. On va aller aux États-Unis parce que Victor Wembanyama est en finale NBA. Ils ont réussi à renverser ses Spurs, le champion en titre, le Thunder. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Oui, la MSN, elle est là, c'est la deuxième fois que je suis champion d'Europe et ça me fait plaisir.
La première, c'était exceptionnel, mais on avait cette envie, plus que tout, d'aller chercher la deuxième et d'écrire l'histoire, encore une fois, de rentrer dans la légende, c'est ce qu'on a fait.
Georges Quilineau.
Le PSG l'a refait, deuxième étoile sur le maillot ce matin après la victoire face à Arsenal en Ligue des Champions hier au tir au but. Dans un instant, le j'y crois pas, on va parler de Jonas Vingegaard qui va remporter le Giro à Rome, a pris une cinquième victoire d'étape hier. Le Danois relance-t-il le suspense pour le prochain Tour de France? On est avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Cédric Emmons et Fred Weiss. On va parler basket, Fred.
Je suis réveillé.
Puisque les Spurs de Victor Wembanyama sont en finale NBA après avoir éliminé cette nuit le champion en titre Oklahoma City chez eux au bout d'un match 7 décisif.
And the San Antonio Spurs have done it. There will be a new champion in the NBA. A new era has dawned. It's Wemby's West. The Spurs are going to the NBA final.
Les Spurs vont en finale NBA en version originale à la télévision américaine. Une nouvelle ère commence sur la conférence Ouest. Le champion en titre est au tapis. 111-103, la victoire de San Antonio avec 22 points. 7 rebonds pour Wemby. Punchline du français après la rencontre.
RMC, la punchline GG.
Winning the Larry O'Brien.
Gagner le trophée NBA, c'est un rêve d'enfance. Et avoir une vraie opportunité d'y parvenir, avoir une chance concrète de le gagner, de réaliser un rêve, c'est une occasion unique. C'est l'occasion d'une vie. On ne sait jamais si cela se reproduira. Mais le jour où on le gagnera, en parlant pour moi, ce sera un jour incroyable, l'aboutissement d'un rêve. C'est difficile à exprimer avec des mots. C'est presque comme le sens de ma vie.
Le sens de la vie pour Wemby.
On va pas faire trop long sur un sport mineur.
Là, ça va s'accrocher avec le rugbyman et les basketteurs. Félix Gabory, l'envoyé spécial de RMC au plus près de Victor Wembanyama. Félix, tu étais dans la salle à Oklahoma City hier. Raconte-nous l'ambiance de la soirée, ce que tu as vu et entendu après le match.
Ce qu'on a vu ici à Oklahoma City, c'est que Loud City, la ville bruyante, c'est son surnom, elle a fini par se taire. La salle était pourtant en feu et faisait un boucan terrible pendant toute la rencontre. L'ambiance était vraiment très hostile ici, mais à la fin, il n'y avait plus que les Spurs qui faisaient la fête sur le parquet. Au moment où le buzzer a retenti, on a vu un Wemby très ému sur le terrain. En pleurs, le Français a laissé exploser sa joie dans un cri de rage. Wembanyama a ensuite reçu le titre de MVP des finales de conférence qui récompense le meilleur joueur de la série. Interrogé par la télé américaine juste après la remise de ce trophée, il a été très clair en disant qu'il n'était pas rassasié.
Nous sommes une équipe, nous l'avons fait ensemble et pour tous les fans qui sont ici. Cela signifie beaucoup de choses, nous voulons qu'il y ait encore 4 victoires, nous n'avons pas terminé.
Et quand il est arrivé en conférence de presse plus de 20 minutes plus tard, il n'était pas redescendu de son petit nuage. Il était encore très ému et n'en revenait pas d'avoir réalisé une telle performance collective.
Impossible de pas savourer. Trop, trop dur. J'ai pas encore construit le... Mon réservoir à émotion, il est pas encore assez grand. C'est impossible de pas savourer, ça déborde. Mais bon, faudra se reconcentrer très bientôt. Mais pour l'instant, c'est... un plaisir incroyable.
En tout cas, ici aux États-Unis, on sent que cette qualification finale fait encore passer Wembanyama dans une nouvelle dimension. En éliminant le champion titre chez lui, il envoie un très gros message à toute la NBA. Mais le sommet n'est pas encore atteint et il reste encore une marche pour définitivement écrire l'histoire. Ça sera contre les New York Knicks dans quelques jours pour une nouvelle série au meilleur des quatre matchs qui s'annonce encore pleine d'émotions.
Merci Félix, quelle folie face aux Knicks. Effectivement, ça va commencer le 4 juin. On écoutait, il est touchant à Wemby hein, quand on l'écoute en conférence de presse.
Il laisse parler ses émotions et ça c'est très important. C'est vrai que dans le sport, on n'a pas vraiment l'habitude de ça, mais lui, il laisse parler ses émotions.
Est-ce que Wemby en finale NBA à 22 ans et avec la forme, là, sortir le champion NBA, est-ce que c'est l'un des plus grands exploits du sport français? Tiens, on va pas faire le tour de table rapidement, on va commencer directement par Fred, peut-être pour que nos auditeurs et auditrices qui sont pas des spécialistes de NBA, qui veillent pas la nuit, dimensionnent ce que c'est. Pour toi, c'est un des plus grands exploits du sport français, franchement, à cet âge-là?
Ben, en fait, à cet âge-là, j'ai envie de comparer avec Tony Parker, qui lui était en finale à 21 ans et qui avait gagné un titre en 2003 aussi, il avait 21 ans. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire que c'est un grand exploit par rapport à sa jeunesse. Mais malgré tout, à 22 ans, être le leader d'une équipe qui va battre sur le match 7, une équipe qui était championne en titre, qui était l'ultra favorite de ce championnat, c'est fantastique. Surtout quand on sait que dans son équipe, il y a justement peu de joueurs qui avaient de l'expérience. Quand on parle de basket et de finale, surtout, NBA et des playoffs en général, on parle d'expérience. On dit, il faut du temps. Tu apprends d'abord, sauf qu'ils n'apprennent pas. Directement, ils vont se retrouver en finale NBA, ce qui n'arrive jamais. Donc, Wembanyama, 22 ans, Castle, son bras droit, 21 ans, et Dylan Harper, le rookie, donc le néophyte qui découvre la NBA cette année, 20 ans.
C'est anormal
c'est incroyable, c'est fantastique, c'est merveilleux. Personne ne pouvait le prédire. Vraiment, je ne connais pas un spécialiste qui avait prédit déjà cette saison aussi magnifique du côté de San Antonio. Mais
Fred,
en plus,
tu n'y croyais pas, toi, en début d'année.
Je n'y croyais même pas. Hier, quand on m'a posé la question, est-ce qu'ils vont gagner? J'ai dit non. Et même si j'ai modéré en disant, il manque deux joueurs très importants du côté de OKC, le lieutenant Jalen Williams et AJ Mitchell, qui est aussi un joueur fantastique. Mais malgré tout, aller dans des terres hostiles, quand on n'est pas favori, quand on sait qu'on va se faire taper dessus, quand on est leader incontesté d'une franchise et qu'on a 22 ans.
Ce que n'était pas Tony Parker, il faut le rappeler. Il n'était pas la star de sa franchise à San Antonio à l'époque. C'était Tim Duncan.
Non, exactement. Quand Tony est arrivé à San Antonio, il y avait une culture quand même. Il y avait cette capacité. Il y avait un grand coach qui connaissait la NBA. Il y avait des joueurs autour de lui. Effectivement, Tim Duncan.
Mais Wemby, c'est le maître du jeu.
Là, il arrive avec un coach qui est néophyte, qui vient juste d'arriver, qui ne connaît pas les playoffs. Il arrive avec une équipe où quasiment aucun n'a goûté aux playoffs et il est le MVP des finales. Moi, j'ai jamais vu ça. Cette précocité dans le rendu extraordinaire, j'ai jamais vu ça.
Ouais. Pascal, t'as veillé cette nuit, chauffé par Fred.
À la faveur.
Après la soirée chez.
Oui, à la faveur.
Dans la soirée avec Denis prolongée.
J'ai regardé sur mon téléphone. J'avoue que je me suis endormi avant la mi-temps. Pourtant, c'était passionnant. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est comme si l'histoire était déjà écrite, quoi. Donc, parce que la suite, c'est quoi? C'est qu'ils vont, battre les Knicks, en fait, Fred. Non?
Alors, je sais pas, ils sont favoris, ils ont l'avantage d'avoir fait une excellente saison, donc ils vont avoir l'avantage du terrain en plus. Donc quand même l'avantage du terrain, même si OKC avait l'avantage et ils l'ont perdu, normalement c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Mais les Knicks sortent de play-off plutôt magnifique, ils ont eu le temps de se reposer.
Ah oui.
Ils ont perdu qu'un match en play-off. Ils ont perdu deux matchs, ils ont été menés 2-1 par Atlanta et ensuite en demi-finale de conférence, ils ont mis un 4-0, en finale de conférence, ils ont mis un 4-0. Donc c'est dire qu'ils ont un jeu affûté quand même.
Fred, le basket c'est un sport collectif ou individuel? Parce que là quand on vous écoute, on a l'impression que c'est Wembanyama qui à lui seul a réussi à hisser les Spurs.
C'est pas uniquement ça, justement.
Parce que là, on dit le plus grand exploit du sport français. Il y en a qu'un qui est français. Donc ça veut dire que
Plus grands exploits. Parce que c'est la star.
Parce que c'est la star, c'est lui le meneur de cette équipe. Et ça qui est impressionnant aussi, d'être le leader d'une équipe. Mais effectivement, le basket est quand même un sport collectif basé beaucoup sur l'individuel, les statistiques, etc. Mais il faut se rendre compte que, comme je disais tout à l'heure, il y a de jeunes joueurs qui l'accompagnent, qui eux aussi ont été merveilleux. Et il faut se rendre compte surtout que sur le match précédent à San Antonio, le match 6, ils font un écart de 20-2 à un moment, et Wembanyama n'est pas sur le terrain. Ça veut dire que Wembanyama est capital pour cette équipe, évidemment, mais qu'ils peuvent, par petite séquence, jouer sans lui et jouer très bien sans lui.
D'ailleurs, il y a eu un moment très important, un contre
de
Luke Kornet sur un joueur d'Oklahoma qui est le moment du match, hein, au moment où Wemby est sur le banc.
Bien sûr, mais il y a plein de joueurs sur la fin qui ont emporté. Hein, D'Aaron Fox qui était arrivé justement pour ça, pour suppléer un petit peu Wemby dans les moments difficiles, qui fait une super finale de conférence.
Fred, comment ça peut réagir, éclabousser le sport, le basket français, parce que le visage de la NBA, quand même, quand on regarde, c'est très Wemby, c'est français, c'est rare, c'est jamais arrivé, même s'il y avait Tony Parker.
À ce mais niveau, là, c'est jamais arrivé. Ouais, voilà. Même Tony, qui pourtant a fait des exploits extraordinaires, il a été champion plusieurs fois et en plus MVP des finales, lui aussi.
Donc, meilleur joueur de
donc,
finale.
Donc, quand même, c'est considérable. On n'a jamais été sur cette domination complète, sur le fait de, quand on parle d'un joueur en NBA, quand tu demandes aux superstars de la NBA, on dit le visage de la NBA, c'est Wembanyama. Moi, je suis désolé, la dernière fois que j'ai entendu ça, j'étais
nouveau.
À deux doigts de pleurer.
C'est nouveau.
Vraiment,
enfin,
vous ne vous rendez pas compte, moi, j'ai jamais vécu ça.
Il le considère comme un leurs ou comme un joueur français?
Il le considère,
comment il est considéré comme...
Il était considéré comme un joueur français, il est considéré comme un des leurs et un des leurs du sommet du panier, sans jeu de mots.
Non mais franchement, rendez-vous compte à quel point ce qui s'est passé cette nuit, pour ceux qui suivent pas la NBA tous les jours, cette nuit, Wemby est peut-être devenu la star de la NBA, peut-être définitivement. En tout cas, pas loin. Il sera la star de la finale. On a vu son sponsor, à la virgule, qui a fait une publication, une vidéo cette nuit pour lui. On voit un vaisseau spatial d'alien, évidemment, qui arrive sur Oklahoma pour montrer qu'il a gagné. Mais les networks américains, les chaînes de télévision ne parlent que de lui. On a entendu les commentateurs tout à l'heure. C'est l'ère de Wemby qui s'ouvre à l'Ouest. On sait que la grande chaîne NBC qui a les droits aujourd'hui veut construire sur lui. Il y a eu des articles cette semaine, ils sont revenus cette année après avoir couvert les années Michael Jordan. Ils veulent en faire le visage de la ligue. En fait, il faut se rendre compte, c'est un français le mec.
Quand je dis que j'ai failli pleurer, je le pense vraiment, parce que moi je viens d'une génération où aller en NBA c'était déjà merveilleux. Donc là, se dire que ce joueur est le visage de la ligue, quand tu poses la question à un ancien, tu dis Wembanyama est le visage de la ligue, moi ça me choque. Alors oui, encore une fois, c'est un sport collectif, évidemment, et je veux pas dénigrer ce qu'ont fait ces coéquipiers qui ont été fantastiques, mais il faut se rendre compte que
tout
ce qui se passe à San Antonio est dicté par Wembanyama. C'est-à-dire que dès que tu joues contre San Antonio, tu changes ta façon de jouer.
Il est reconnu par ses pairs.
Il est top 3 du vote de meilleur joueur de la saison. Donc ça veut dire que déjà, il avait un impact. Maintenant, en allant en finale NBA, si en plus il l'a gagné, le retentissement. Je me moque parfois de vous, les rugbyman, par rapport au retentissement mondial, mais on sait que c'est de bonne guerre. Mais dans l'absolu, on est quand même un sport mineur qui est pratiqué par 450 millions de personnes. Ouais, bah, alors que vous, c'est seulement 8 millions.
C'est grand à partir de la
La résonance dans le monde est juste incroyable.
Vous rendez compte, Pascal Duprat, il regarde les matchs NBA dans la nuit maintenant.
C'est beaucoup grâce à Fred, beaucoup grâce à Wemby aussi.
Non, mais qu'est-ce que tu vois, toi? Tiens, toi qui découvres ce monde, l'intensité dont tu nous as parlé,
il fait 2 mètres et j'en peux plus, et il est d'une mobilité incroyable, quoi. Ça, c'est le truc qui me stupéfait le plus. À savoir, tu t'attends à un mec statique, mais en fait, il se déplace comme un type d'un mec.
Il a un charisme dingue. Il est arrivé, c'est un jeune mec.
Il a du charisme, il est super bien câblé.
Il a
pas le chou.
Très loin, Michael Jordan, tu vois, c'est très très loin.
C'est très loin.
Mais lui,
grâce au réseau, je regarde, je me suis abonné, je regarde ce qu'il fait. Ça te donne envie de retourner, quand t'es français, ça te donne envie de retourner voir du basket, de regarder du basket, parce que ce garçon.
Non, mais c'est le plus beau sport du monde.
Mais tu vas faire pleurer Fred.
Mais non,
tu l'as dit. Après, tu m'as donné envie de regarder le basket.
Non, mais tu lui dis, on se branche, mais on déconne, mais ça me, comme quand il y a eu l'arrivée de Zlatan au PSG, m'a donné envie de regarder le football.
T'as besoin de personnages.
Tu t'identifies comment? Parce que t'as des personnages. Et en plus, si ces personnages sont bons, câblés, et qui te passent des émotions, parce que Fred l'a dit, il donne des émotions, t'as envie de le suivre. Quoi,
c'est ça, Christophe, j'entendais réagir tout à l'heure. C'est vrai, moi, l'image qui m'a donné les frissons, c'est les larmes de Wemby au buzzer. Voilà. Il gagne une finale de conférence, il est en larmes, le mec. Avec ses coéquipiers. Normalement, en NBA, on voit ça que quand on est champion NBA. C'est un garçon qui n'a pas peur de montrer ses émotions aussi.
Mais
voilà.
C'est-à-dire
que lui, il décide son propre récit.
Voilà ce que je suis. Vous me prenez comme je suis, avec mes combats, avec ce que j'aime. J'aime bien être un Shaolin. J'aime bien lire de la science-fiction. Voilà ce que je suis. J'impose mon récit.
Mais moi, c'est ce que j'admire le plus chez lui, parce qu'effectivement, il a beaucoup de charisme, parce que par son jeu, par sa façon d'être, il est très grand. Donc forcément, ça aide aussi. Mais il a aussi cette capacité à ne pas retenir ses émotions. Il est lui-même. Et c'est là que je vous rejoins. Quelqu'un qui est soi-même, je trouve qu'il donne encore une meilleure image, parce que quand il gagne, il est vraiment content. Quand il perd, il est vraiment mécontent. Il se passe quelque chose. C'est pas quelqu'un de neutre dans le sport. Il est pas lisse. Il est pas neutre. Et dans le sport moderne, c'est quand même extrêmement rare. Donc moi, ça me.
Et ce qui est dingue, c'est que quand il est arrivé, enfin, je dis, ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de lui, et on lui disait, c'est le grand espoir. Il va cartonner. Et chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait de manière incroyable. À chaque étape qu'il a passé, il l'a passé avec brio, en devenant aujourd'hui MVP des finales NBA. C'est incroyable. Il a laissé aux Canadiens quand même le titre de MVP de la saison régulière.
Oh oui, c'est
je pense
miettes,
que les mecs qui ont voté doivent regretter aujourd'hui. Hein.
La meilleure réponse, c'est le match qu'il a fait face à lui.
La meilleure réponse, c'est d'être MVP des finales et de gagner. Là, c'est bien mieux que d'être MVP du championnat de la saison régulière. C'est bien mieux d'être MVP des finales.
Il aurait dû être les deux.
Finale NBA.
Il était pas loin dans les deux. Mais Shea était très bon sur la saison régulière.
Vous n'allez plus dormir parce que la Coupe du Monde de foot va débuter dans deux semaines. Ça se passe aux États-Unis, au Canada, au Mexique et les Fenerbahçe NBA. Donc à partir du 4 juin face aux Knicks, c'est au meilleur des 4. Enfin, en fait, ils vont gagner 7 manches. Et ils vont gagner 4 pour gagner.
Ça peut finir tard.
Ça peut finir au début de la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde.
Pendant le Tour de France.
Le dernier match, c'est le 20.
Non, pas pendant le Tour de France. Attends, ça dure pas un mois, la finale NBA.
Parce que là, si vous dormez tous pendant le Tour de France, qu'est-ce que je vais faire, moi?
Moussa sur WhatsApp me dit, mais vous rendez compte, finale NBA avec Wemby au Madison Square Garden. Ouais, ça va être fou.
La plus belle salle américaine.
La salle la plus mythique du monde du sport.
La salle de la boxe.
Pour Victor Wembanyama pour aller chercher.
Je pense à la boxe, je pense au basket, évidemment, c'est un temple.
Les gars,
je l'ai dit,
j'ai des frissons. Alors, il fait froid, peut-être. C'est vrai que la chaleur est passée. Allez, Fred, écoute, on va kiffer, vivre ça ensemble.
Moi, j'y
vais.
Demain, il est au Madison. Voilà. Il compte devant.
Et voilà, rendez-vous compte, le titre du Paris Saint-Germain, extraordinaire, mais ce qu'a fait Victor Wembanyama cette nuit, c'est au niveau sport global de ce qu'a fait le PSG. C'est pour ça qu'on voulait faire une place importante et on va continuer de le faire. Dans un instant, on va parler du Tour de France, c'est dans un mois, le Tour de France, Christophe. Vingegaard a gagné le Giro. Enfin, il va le gagner aujourd'hui sauf accident, sauf s'il tombe dans les rues de Rome. Il a gagné 5 étapes. Est-ce qu'il a relancé le suspense sur le prochain tour? Tiens, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Eh oui, on a mis la trompette parce que le Tour de France arrive dans un mois, effectivement. On va reparler du PSG dans un instant. Hein.
J'aime pas quand on appelle Christophe comme ça, la trompette.
Ah bah. Alors que Christophe avait dit le plus grand bien de la NBA, voilà, ça y est, l'âge de guerre, il ressort vraiment. Le PSG est-il entré dans le cercle fermé des géants d'Europe? On va en parler dans un instant. Tiens, on va reparler des festivités à Paris, bien sûr, il y a des célébrations toute la journée. Tiens, j'ai une information à vous donner, si vous connaissez Paris, la ligne 12 de métro notamment, vous connaissez l'arrêt rue du Bac. Il a été renommé ce matin la rue du Bac to Bac. Il y a des décorations qui ont été faites, hein, évidemment. Pour parler du doublé parisien.
Et tous les candidats au baccalauréat vont obtenir le bac, il est offert par l'éducation nationale.
Non, si vous passez le bac, il faut le repasser l'année prochaine. Il faut faire le bac to bac. C'est ça. Non. Allez, tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
Moi, j'ai eu mon bac, mais avec sans mention. Hein. Roland Garros m'avait un peu flingué cette année-là. Je l'avais eu sur le buzzer.
J'y crois pas, les amis. Alors, Vingegaard va remporter aujourd'hui à Rome son premier Giro. Il va compléter sa collection des grands tours, hein, rentrer dans un cercle très fermé, justement, de ceux qui ont remporté les trois. Côté Dantil, Gimondi, Merckx, Hino, qu'on t'adore, Nibali et Froome, le dernier. Le Danois a remporté en montagne hier sa 5e victoire d'étape sur ce Giro. Son dauphin, en général, Félix Gall, est à 5 minutes 22. Vingegaard va maintenant se tourner vers sa prépa pour la grande boucle. Lui qui se dit plus fort que jamais. Tiens, d'abord, j'y crois pas. Jonas Vingegaard relance-t-il le suspense pour le prochain Tour de France où il a été dominé lors des dernières années par Pogacar? Pogacar sera là, évidemment. Tiens, Christophe, d'abord. Oui,
oui, plutôt oui.
Plutôt oui.
Ouais, plutôt oui.
Ah, Cédric Evans,
plutôt oui.
Pascal Duprat,
clairement oui.
Frédéric Weiss,
clairement non.
Et clairement non. Et ben, vous savez quoi? Puisqu'on a un mois du Tour de France, Christophe Cessu, la zone de repère. On va faire un petit peu la team de l'intégral tour. Une GG Vélo nous rejoint. C'est Jérôme Coppel qui est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut les amis.
Bonjour. Bon, Jérôme, t'es sur une course là ou quoi?
Non. Ouais,
tranquille. Non, je suis à Paris, je fais la fête.
Il est à la maison.
Au bord de la piscine, je prépare le barbecue.
Il a la piscine du PSG, dis-nous la vérité.
Il a la piscine, il a le lac Léman à ses pieds là, si tu veux.
Exactement, c'est une grande piscine.
Bon propriétaire. Professeur Coppel, qui a été avec moi parfois l'un des grands défenseurs de Jonas Vingegaard. Est-ce que tu penses qu'il peut faire douter Pogacar quand tu vois le Giro là?
Alors, j'adore Vingegaard, mais je vais être comme Fred, je pense pas qu'il ait relancé le suspense.
À un moment, on connaît le cyclisme.
Le vélo ou pas, exactement, Fred.
Dis-nous pourquoi, Jérôme. Après,
Alors oui, t'as dit tout ce qu'il a fait au Giro, il a complété la trilogie des grands tours, etc. Mais pour moi, c'est un peu une, sans être péjoratif du tout, mais c'est un peu une victoire en trompe-l'œil. On savait dès le départ qu'il n'y avait pas une grande adversité, qu'il n'y avait aucun coureur qui allait rivaliser avec Jonas Vingegaard. Il l'a prouvé, gagné avec 5 minutes d'avance, 5 victoires d'étape, etc. Maintenant, le combat de Vingegaard, entre guillemets, c'est de battre Pogacar au mois de juillet. Et l'adversité qu'il a eue sur le Giro sera pas du tout la même adversité qu'il aura autour, et notamment Tadej Pogacar. Donc oui, on voit qu'il va bien, qu'il est bien, qu'il n'y a pas de problème. Son début de saison est incroyable, son Giro est parfait, donc il est en forme. Pour moi, par contre, il est pas encore, et à mon avis il y sera plus jamais, au niveau de Tadej Pogacar. Je parle pas de faits extérieurs, hein, de chute, de crevaison, etc. À condition que les deux aient la prépa idéale, qu'il n'y ait pas de pépins sur le tour, je pense que Tadej Pogacar sera encore une jambe au-dessus. Par contre, un truc positif pour Jonas Vingegaard, et je pense que c'est le plus bel enseignement de ce Giro, c'est son équipe, et quand tu veux aller sur un grand tour et gagner notamment le Tour de France, il faut que ton équipe soit solide. C'est comme ça que Vingegaard a gagné le Tour, notamment en faisant craquer Pogacar dans le Granon. C'est grâce à son équipe. Son équipe va bien, et la santé d'une équipe après te donne un peu le tempo.
Et c'est pour ça que Christophe y croit, je pense un peu. Alors, c'est quoi, alors, franchement, toi, Christophe, t'y crois ou t'as envie d'y croire?
J'ai plutôt envie d'y croire. Envie d'y croire parce que t'as un mois du départ du Tour de France et tu te dis que Poggy va éclater tout le monde dès la première semaine. Tu te dis, autant rester à la maison. J'y crois, et puis je crois surtout plus en Sexas qui va vraiment challenger là aussi Pogacar. Mais en fait,
tu crois plus en Sexas qu'en Vingegaard?
Non, les deux. Mais ensemble. Au moins pendant 15 jours. Mais c'est vrai que tous les voyants sont au vert pour Vingegaard, et c'est rare. C'est quand même ça qui est étonnant. Jérôme parlait à l'instant de son équipe. Moi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une équipe, peut-être pas du niveau où elle était en 2022-2023, mais pas loin quand même. Hein. Sepp Kuss qui retrouve ses qualités d'avant. Des garçons comme Campenaerts, comme Armira qui va beaucoup l'aider. Donc de ce côté-là, c'est bien. On se demandait aussi si c'était pas faire trop d'efforts de faire le Giro pour ensuite s'aligner au départ du Tour de France. Et ben il a fait le Giro sans taper dans les réserves.
Je crois que je ne suis pas sur les rotules, il a dit hier.
Voilà,
j'ai un bon pressentiment.
Moi, c'est pour ça que j'ai géré. Et donc, je pense que il le disait.
Mais il a gagné Paris-Nice, il a gagné le Tour de Catalogne.
Mes datas sont toujours meilleures sur un deuxième grand tour d'affilée. Donc, moi, j'ai bien envie de le croire, même si peut-être il nous la joue à l'esmouf.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai envie, parce que l'équipe monte en puissance. Lui, il arrive avec un capital confiance. Certes, le Giro lui était donné, mais il a pris. Il a allé chercher 5 victoires d'étape. Il se laissait faire quand même ses victoires. C'est la meilleure façon de rentrer dans sa préparation pour le Tour de France. Il arrive avec un capital confiance. Après, les faits de course pourront. Oui, et cette classe, ils vont pouvoir aller chercher Pogacar et à deux, peut-être le l'abîmer.
Je
ne
sais pas s'ils vont s'allier, les deux.
Oh, peut-être, je sais pas.
Il y a pas d'alliance sur
le dernier truc, c'est que on sait que Vingegaard a été victime d'un terrible accident en 2024,
il y a deux ans,
qui lui a fait perdre une grande partie de son niveau. Aujourd'hui, on est deux ans plus tard, et j'ai l'impression, je sais pas, Jérôme, ce que t'en dis, c'est difficile de quantifier parce qu'on ne les a pas vus opposés les deux, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'il a récupéré quasiment son niveau.
C'est ce qu'il dit, lui, niveau
juste Pascal. Moi, je suis sur la position de Christophe. Donc j'ai envie d'y croire, mais c'est la multiplication des challengers qui me fait dire que peut-être, je dis bien peut-être, Pogacar pourrait être en difficulté. Parce que s'il se prend un Sexas en pleine bourre, un Vingegaard en pleine bourre, et Evenepoel qui a envie de briller.
Il peut l'embêter les premières semaines peut-être.
Non mais moi j'espère, voilà, parce que autrement je m'ennuie, sauf à écouter les commentaires de Christophe et de ses compères, bien entendu.
Fred.
Moi j'ai du mal à y croire, parce que justement on a parlé de qui l'entourait, qui a été en compétition avec lui. Il y avait personne de vraiment très sérieux entre guillemets qui puisse lui faire peur. Donc on lui a donné, c'est ce qu'a dit Cédric, on lui a quasiment donné, il l'a
pris. Moi j'ai dit qu'il a pris. Il a pris. Fred, tu déformes pas. J'ai dit qu'il a. Il lui a été promis et il allait le chercher.
Oui, donc
non, c'est pas pareil. Tu vois, ça c'est mentalité de basket. C'est mentalité de basket. Tu respectes pas tes adversaires. Voilà.
Comme on lui a donné d'après Cédric, je suis d'accord avec lui.
Non, pas d'après Cédric.
C'est assez choquant de se dire, ben en fait il avait une course assez une compétition assez facile, il l'a prise, il a gagné, c'est très bien. Moi après je me pose la question quand même, parce que tout le monde m'avait vendu l'année où Pogacar fait le Giro, tout le monde a dit ouais mais c'est quand même dur d'enchaîner deux grands tours, il l'a fait, maintenant tout le monde dit c'est normal. Alors oui, on va dire qu'il a levé le pied, mais finalement Pogacar avait levé le pied aussi, donc je comprends pas pourquoi d'un seul coup ça deviendrait facile. Pogacar est un alien, on en connaît un autre dans le basket, mais Pogacar est un alien, il va mettre tout le monde d'accord aussi, hein. Et Vingegaard va être très sympathique, il va lui taper sur les fesses quand il sera arrivé. Et merci
mais
beaucoup.
Je rappelle mais après, Vingegaard, c'est pas un tocard. Hein.
Ah non, mais
Vingegaard, c'est deuxième tour, mais il respecte rien.
C'est un mec
qui a gagné.
Fred, tu respectes rien.
En battant Pogacar, je veux dire, c'est quand même du très haut niveau.
Évidemment, mais pour l'instant, on a vu les performances de Pogacar, on sait qui est au-dessus.
Vingegaard a fait deuxième du tour l'année dernière, il a gagné la Vuelta ensuite. Alors, Jérôme, est-ce que toi, tu prends cet argument, Vingegaard, qui dit je peux être, l'année dernière, a montré que j'étais plus en forme peut-être après avec un deuxième grand tour. Est-ce qu'on y croit à ça?
Non, j'y crois pas du tout, parce que l'année dernière, pour moi, il était bien plus fort sur le Tour de France, même s'il fait deuxième, que par rapport à la Vuelta où il gagne, parce qu'à la Vuelta, il est quand même titillé par Almeida, et Almeida, c'est pas Tadej Pogacar. Donc, oui. Je pense qu'il était quand même bien plus fort au Tour qu'il était sur la Vuelta, mais il a tellement de marge. Oh, si t'enlèves Pogacar, Vingegaard, il est aussi tout seul sur sa planète, hein, jusqu'à maintenant. Il y a personne derrière lui. Donc oui, c'est le deuxième meilleur coureur du monde sur les grands tours. Maintenant, Christophe parlait de sa chute, etc. C'est difficile de vraiment savoir où il en est, parce que son équipe l'année dernière disait il fait des chiffres, des datas qui sont meilleurs qu'avant sa chute, etc. Il a quand même pris une volée par Pogacar au mois de juillet, donc ça c'est toujours dur à voir. Moi je pense quand même qu'il il a retrouvé son niveau, il est peut-être meilleur même qu'un petit peu avant, mais il est encore loin de Tadej Pogacar, il est encore loin, je suis désolé, c'est un super coureur, mais il est pas au niveau de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est tout seul sur sa planète, point à la ligne. Il y a pas de débat là-dessus. Maintenant les circonstances de course, le fait que tu ramènes un Paul Sexas, peut-être un Lipovic, un Remco Evenepoel, et que ça castagne un peu plus, oui, ça peut poser des problèmes éventuellement à Tadej Pogacar.
Plus de monde, effectivement.
Voilà, exactement.
5 degrés, peut-être.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Je le sens, le Tour de France, là. Ça y est, il est là. Il arrive.
C'est Sexas, on va les mettre d'accord tous.
Tour au vert du Rhône-Alpes, week-end prochain. C'était l'ancien critérium
du Dauphiné. On change pas le nom.
Avec Paul Sexas au départ, on va évidemment largement en parler le week-end prochain. Merci Jérôme, évidemment on te retrouve très vite dans les GG. On va reparler dans un instant du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est entré dans le cercle fermé des géants d'Europe? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.